Dans le deuxième strophe de ce cantique, sur la croix bénie, pour moi tu mourus, ta mort et ma vie, je t'aime Jésus. Et comme si que Jésus l'a expira et nous avons reçu le premier souffle. Sa mort est notre vie. Ah, je trouvais ça assez beau. Prenons notre Bible pour... Nous allons continuer notre étude sur Exode 3. Livre d'Exode, chapitre 3. Nous allons lire les premiers 10 versets en Exode, chapitre 3. Moïse, faisant paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vous me retourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel dit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon pays, de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Éthiens, les Amoriens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Donc, je pense que c'est un beau passage que nous avons. Le premier verset dit, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. On a vu dans le premier chapitre, le deuxième chapitre, Moïse, il était où et qu'est-ce qu'il est en train de faire ici? Il était dans le palais de Pharaon. Avant, il était un misérable enfant hébreu. La parole ne savait pas comment garder cet enfant. La mère, elle a fait une corbeille. Elle a laissé dans le Nil. Et il était pris par la princesse. Et il était élevé dans le palais de Pharaon. Et maintenant, ce Moïse, après tout ce temps, et on voit dans le désert, en train de paître le troupeau de son beau-père. Il travaillait. Certainement, il habitait chez son beau-père. Il travaillait. Donc, son travail, c'était paître le troupeau. Et Dieu, il peut amener quelqu'un qui est dans le palais. Il peut amener dans la situation comme Moïse. Aujourd'hui, on peut être quelque chose et demain, Dieu peut nous amener à un autre endroit. Il est capable de faire. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. On peut parler aussi. Ce n'est pas une prédication, mais j'aimerais bien simplement faire une étude. Donc, la parole dit, « Et vint à la montagne de Dieu à Horeb. » Est-ce que Horeb, c'est la montagne de Dieu? Est-ce que anciennement, c'était appelé la montagne de Dieu, ce lieu? C'est en Sinaï, hein? On est dans le désert de Sinaï, le mont Sinaï, autrement appelé Horeb. Et ici, c'est marqué Horeb, la montagne de Dieu. C'est un peu intriguant, n'est-ce pas? Bon, on va aller dans le deuxième verset. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Donc tout d'un coup, il vient à la montagne de Dieu, à Horeb, en train de paître son troupeau. Et l'ange de Dieu lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. L'ange de Dieu. Et certains commentateurs, ils pensent que c'est Jéhovah lui-même. C'est Jéhovah lui-même. Et dans une flamme de feu, une vision, et l'ange de l'Éternel, il est apparu dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Et ailleurs, c'est marqué, le Seigneur, il est comme un feu qui dévore. Hein? Comme une flamme qui dévore. Et ici, il voit au milieu d'un buisson, Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Donc, c'est une chose étrange, un miracle. Jamais, je pense que en été, on a le forêt de, feu de forêt en France, dans le sud surtout. Si la canicule continuait encore plus, pour plus de temps, il paraît que même dans le 77, il y avait le feu de forêt. Donc, on peut imaginer que dans le désert, c'est quelque chose de commun. Mais ce qui n'était pas commun, que le buisson ne consumait point. Il y avait le feu, il a vu le feu, il voit l'ange de l'Éternel, mais le buisson ne se consumait point. Et qu'est-ce qu'il fait Moïse? Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Donc Moïse, il était curieux, il avait la curiosité d'aller renseigner, aller voir pourquoi c'est ainsi. Il n'a certainement jamais vu un tel spectacle. Le verset 4, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu de buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. On dirait que Dieu l'attendait, Moïse. Dans le désert, il n'y a personne. Il n'y avait que des moutons pour l'agneau. Il n'y avait personne. Et tout d'un coup, il allait vers la montagne d'Horeb. Et tout d'un coup, il voit le buisson en feu, il voit l'ange de l'Éternel. Et là, Dieu l'appelle Moïse, Moïse. Et tout de suite, Moïse, il répond. Il dit, moi aussi. Vous pensez à qui comme ça? Quand l'Éternel appela quelqu'un, la personne a dit, moi aussi. Hein? Isaïe, oui. Samuel, quelqu'un qui a dit, Samuel, oui, j'ai pensé à Samuel. Moi aussi. Je pense qu'il y a plusieurs serviteurs de Dieu, ils sont dit, moi aussi. Hein? Et donc, quand Dieu l'appelle, il dit que je suis là, je suis là. Mais je ne sais pas, toujours on entend l'appel de Dieu dans notre vie. C'est une chose d'entendre la parole de Dieu à l'église, mais est-ce que nous entendons la voix de Dieu quand on est pressé par 4 personnes dans le métro, hein, en train de transpirer quand on est penché, on est pendu dans le métro? Assez difficile, hein? Mais nous devrions normalement entendre la voix de Dieu. Même là. Parce que Dieu, il est si près. Il n'y a pas un endroit qu'on devrait aller là pour retrouver Dieu. Est-ce que nous entendons la voix de Dieu? Quand Les sœurs, elles sont en train de faire la crèche, mais il y a 5 enfants qui crient. Est-ce qu'on entend la voix de Dieu? Est-ce qu'on dit, moi aussi, me voici? Mais on a la tendance de, parfois de séparer Dieu, mettre Dieu ou enfermer Dieu dans un endroit, dans un lieu, et ailleurs, Dieu n'est pas là. Moi, je peux faire ce que je veux. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Donc là, quand il vient vers l'endroit où Dieu l'appelle, il dit, attention, tu ne viens pas tel que tu es dans le même état. Tu devrais ôter les souliers de tes pieds. Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Encore une fois, je pose la question. Est-ce que Moïse, il approchait la terre sainte? Ou on appelle ce lieu terre sainte parce que Dieu était présent là-bas? Vous voyez, il y a une différence. Parce qu'on peut dire que cet endroit, ce bâtiment est saint. Parce que régulièrement, des chrétiens, des enfants de Dieu, ils viennent rencontrer Dieu dans ce lieu, ce qui est vrai. Mais pourquoi ce lieu devrait être saint? Parce que c'est là que Dieu il nous rencontre. Sinon, ça ne devrait pas être saint. Mais je ne pense pas que la terre était sainte avant. Mon Sinaï, auparavant, on ne voit pas dans la Bible que c'était la montagne de Dieu. C'est ici qu'on voit que c'est la montagne de Dieu. Et donc Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit Dieu? Je suis le Dieu de ton père. C'est la première fois qu'on voit le père de Moïse est mentionné. C'est qui le père de Moïse? Vous vous souvenez? Amram. Donc Dieu s'introduit comme « Je suis le Dieu de ton père ». Et après, il va en arrière, plusieurs années avant, et dit « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob ». Et tout de suite, Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Là, Moïse arrive à reconnaître c'est qui parle. Il a eu une vision, il a vu le buisson en train de brûler, mais il restait, il ne consumait pas. Mais là, Moïse cacha le visage. Ça me fait penser à Isaïe 6, hein, 6 ou 7. Isaïe, quand il a la vision, le chérubin qui cache leur visage, avec les deux ailes. Hein? Et car il craignait de regarder Dieu. Verset 7, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs car je connais ses douleurs. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Est-ce qu'il y a un endroit où Dieu ne peut pas nous voir? Encore dans Psaume 139. Où j'irai loin de ta face? Est-ce qu'il y a un endroit où Dieu ne peut pas nous voir? Dieu nous voit partout. Soit c'est dans le désert de Sinaï, il a vu Moïse. Un seul homme, complètement perdu. Il n'avait pas sa famille, il n'y a personne. Son peuple, il était en Égypte. Mais Moïse, complètement perdu, il est en train de perdre le troupeau, il ne sait pas. Il ne sait même pas. Il ne connaît pas son carrière. Hein. Et c'est même pas. Qu'est-ce que le lendemain il a pour lui? Complètement perdu. Il était en train de balader dans le désert, mais Dieu l'a vu. Il a vu à Moïse. Et là, il dit que j'ai vu la souffrance de mon peuple. Peut-être que ces peuples ils sont oubliés de Dieu. Mais Dieu n'a jamais oublié son peuple. Il a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Et ce verset, ça nous montre combien Dieu entend, combien Dieu nous voit, combien il a le souci pour nos souffrances. Dieu connaît entièrement. Et le verset 8, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qui habite les Cananéens, les Éthiens, les Amoriens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Et Dieu dit, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Est-ce que ce n'était pas le vœu de Moïse? Il voulait délivrer son peuple de la main des Égyptiens. C'est à cause de cette envie, de cette zèle, on trouve Moïse dans le désert aujourd'hui. Hein, avec cette zèle, il a frappé un Égyptien, il a tué un Égyptien, et il était découvert de ce meurtre, et là, il a fui l'Égypte. Mais ici, Dieu dit, tu voulais faire ça? Moi, je suis descendu maintenant pour délivrer mon peuple et pour amener mon peuple à terre promise. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Et parfois, quand on prie, on n'a pas la foi que notre prière peut atteindre le ciel. Et parfois on pense qu'on devrait formuler une belle prière puisque ça peut atteindre l'oreille de Dieu. Mais Dieu, il entend notre souffle, il entend notre soupir, il entend notre respiration, notre cri, il entend tout et il voit tout. Et maintenant, vois, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Donc, ça c'est le contexte de ce passage. Et on va voir le verset 2 surtout. Hein. On va regarder un peu plus près. Le verset 2, Moïse, il avait la curiosité, il voulait aller voir cette buisson qui brûlait, qui était en flamme, qui ne consumait pas. Et parfois, nous, on peut ignorer, c'est à cause de cette envie d'aller voir ce qui se passe dans le désert, Moïse, il a pu rencontrer Dieu. Et donc, parfois on peut négliger et on peut passer par cette de ne pas avoir cette expérience. Et Dieu, il est là. Dieu, il est là. Pas parce que Dieu n'est pas. Dieu peut pas être limité à un endroit. Dieu, il est. La Terre Sainte, c'est le lieu où Dieu il est présent. La Terre Sainte, c'est l'endroit où Dieu il est présent. Et parfois, on peut négliger la présence de Dieu. On peut complètement zapper la présence de Dieu, la parole de Dieu, à cause de notre négligence. Moïse, il avait cette curiosité d'aller voir le buisson qui était en flamme. Et il a pu rencontrer Dieu. Tournez avec moi en Marc 8. Évangile de Marc, chapitre 8, Verset 14 à 20, si quelqu'un peut lire. Marc 8, verset 14 à 20, si quelqu'un peut lire bien fort. Les
disciples avaient oublié de prendre le pain, ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain des voleurs. Les disciples raisonnaient entre eux et disaient, c'est parce que nous n'avons pas de pain. Jésus les reconnut, leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Quand j'ai rompu les cinq pains pour les 5 000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4 000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondirent-ils.
Donc voilà, nous voyons comment Jésus reprend ses disciples. Hein. Et pourtant, Jésus, il a fait un miracle. Il a nourri autant de personnes avec ses pains. Mais ce n'est pas entré dans la tête de ses disciples. Il était complètement... Ce n'est pas entré dans leur cœur. Ce n'est pas entré par la tête non plus. Et parfois, on peut entendre une prédication... On peut entendre quelqu'un partager la parole, parler de la Bible, mais pourtant on peut complètement passer à côté. Parce que nous sommes en train de penser quelque chose, ou avoir le souci de quelque chose inutile. Et parfois, un frère ou une sœur, elle peut parler avec nous par rapport au miracle de Dieu, de l'oracle de Dieu, mais ça peut, on peut complètement zapper ces choses. On peut... ne pas comprendre. On peut ne pas comprendre. Et quand Jésus il fait ce miracle, les disciples sont en train de parler. Quand Jésus qui a fait ce miracle, il est dans le bateau avec eux, les disciples ne comprenaient pas. Donc on devrait poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il ne comprenait pas Jésus, il est capable de faire les choses comme ça? Mais pourquoi les disciples n'ont pas compris? Et ils sont complètement été dehors de ce miracle. Pourtant, ils sont vus, ils sont mangés. Mais ils n'avaient pas la foi que Dieu peut faire les choses comme cela. Et donc, on peut... échouer de reconnaître ce que Dieu il est en train de faire. Et Dieu, il fait les choses au milieu de nous. Dans son Église, parfois, Dieu fait les choses merveilleuses, mais on n'est pas conscient de cela. On n'est pas du tout conscient de cela. Et pourquoi parfois on n'arrive pas à capter la beauté dans une prédication parfois. Quand quelqu'un qui parle de la parole de Dieu, qui l'enseigne sur la parole de Dieu, on n'arrive pas à capter du tout. Peut-être intellectuellement, on est préoccupé par des choses littéraires ou avec notre question préconçue, on vient avec notre préjugé. Et on n'arrive pas à voir le buisson qui est en flamme. Ce que Dieu est en train de faire. Et deuxièmement, on peut, quand le buisson il était en flamme, Moïse il aurait pu demander, est-ce qu'à 7 degrés, cette température, est-ce que c'est vraiment possible que le buisson il peut être en flamme, et comment il ne se brûle pas, et comment et il peut poser des questions, et il peut rater complètement la présence de Dieu dans cette affaire. Et nous aussi, on peut faire les choses comme ça. On va lire un autre passage, en Jean 4, Évangile de Jean, chapitre 4. Nous allons lire à partir des versets 4 jusqu'à 20. Jean 4, 4. Quelqu'un peut lire ce passage? Jean 4, à partir de verset 4 jusqu'à 20.
Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans la ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vins. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi, qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme lui répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as du vrai. Seigneur lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem.
Voilà. Donc, dans ce passage, la femme samaritaine, elle rencontre Jésus. Mais quand Jésus dit que je te donne l'eau vive, mais elle ignore complètement, elle commence à analyser les choses, elle pose plein de questions, elle demande comment tu peux faire ça, est-ce que tu es capable de faire ça, le puits il est très profond, et comment tu peux faire ça. Donc elle pose beaucoup de questions, et elle dit même, est-ce que tu es plus grand que notre père Jacob qui a creusé ce puits? Mais elle oublie ce que Jésus est. Elle laisse complètement à côté la personne de Jésus, qu'il est le Dieu lui-même, et il est capable de faire les choses. Et à la fin, elle arrête ses questions. Quand Jésus, il va direct, elle arrête ses questions, elle comprend. Ce que Jésus est. Donc, c'est quand on voit le buisson qui est en flamme, je pense que nous devrions arrêter de faire l'analyse et on devrait voir la personne de Dieu, la main de Dieu dedans. Et au lieu de faire le analyse, on devrait intellectuellement, on essaie de comprendre qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est comme cela. Et une autre chose, un danger, quand Moïse a vu le buisson ardent, il a pu dire que voilà, je suis dans la terre sainte et je ne devrais jamais approcher de cet endroit, je devrais tourner le dos et courir vers la tente de Madian. Et parfois, on a la tendance de faire une chose pareille. Et on connaît les gens qui disent que Dieu est trop saint pour moi. Moi, je reste où je suis. Je laisse Dieu dans sa sainteté. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Tout de suite, on essaie de faire quelque chose de mystique. Et quand on fait quelque chose de mystique, on ne comprend même pas la parole de Dieu. On peut prendre la parole de Dieu, embrasser la parole de Dieu, on peut faire ce qu'on veut. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut qu'on lui rencontre face à face. Et regardez ce que les disciples ont fait. Luc 9, quelqu'un peut lire, Luc 9, 28 à 36.
Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie, qui apparaissant dans la gloire, parlait de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil. Mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir, et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils, Élie. Écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence, et ils ne racontèrent rien à personne, en ce temps-là, de ce qu'ils avaient vu.
Ah, pour nous imaginer l'expérience merveilleuse que ces 3 disciples ils ont pu avoir avec Jésus hein, quand il est sur le mont de transfiguration. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait finalement? Pierre précipite, il dit qu'on va construire 3 tentes. Est-ce que c'était ça l'importance de cette occasion? Non. Et nous, on est comme ça aussi. Parfois, on peut aller dans un camp spirituel et on dit, ah, c'était comme le ciel. On ne va pas descendre de ce camp. Et on peut, ah, je peux rester dans la maison de Dieu pour entendre la parole de Dieu. Très bien, c'est bien. Mais arrêtons de mystifier des choses, mettre les choses à part, comme si que on va vivre là-bas. Mais Moïse, il a eu cette expérience. Il a vu cette buisson ardente en flamme. Et il devrait retourner avec ses troupeaux. Hein. Et il avait un boulot après. Et donc, quand nous voyons, parce que dans le monde aujourd'hui, il y a beaucoup de terres saintes. Et la terre sainte pour les musulmans, et la terre sainte pour les chrétiens, et la terre sainte pour les juifs, et la terre sainte pour des autres religions. Chaque religion a une terre sainte. Et où Dieu il est, cet endroit est saint pour nous. Quand Dieu il est là, cet endroit, quand Dieu parle avec nous, quand Dieu il est en communion avec nous, cet endroit est saint. Sinon, Dieu il habite dans mon cœur. Et parfois, nous avons la tendance, oh, je viens à l'église, je ne peux pas faire certaines choses. Mais ailleurs, dès que je sors de l'église, je peux faire n'importe quoi. Mais ce n'est pas vrai. Si Dieu habite dans mon cœur, je ne peux pas faire, je ne peux pas faire n'importe quoi, n'importe où. Soit c'est l'église. Une fois, je rappelle le frère Timothy Knickerbocker, il a dit, vous savez que Satan, il peut venir asseoir dans l'église avec vous? On était un peu choqués. Mais il a dit, oui, Satan, il peut faire. Parce qu'il a fait. Il peut même aller dans le ciel, dans l'histoire de Job. Nous avons vu il y a une semaine, dans l'histoire de Job, Satan, il vient dans la présence de Dieu pour parler avec Dieu. Et si Satan, il peut venir ici, s'asseoir à notre côté, et c'est peut-être c'est pourquoi nous baladons parfois dans la pensée ailleurs, ou quand nous entendons une prédication, nous pensons à notre voisin, on ne pense jamais à nous. Satan, il dit, non, ce n'est pas toi, dors tranquillement, c'est ton voisin. Non, mais on a un problème vraiment quand on essaie de mettre Dieu dans un coin où il ne va pas nous déranger. Il ne va pas nous déranger. Et Dieu, il est partout. Si nous sommes les enfants de Dieu, on devrait dire comme David, où je peux fuir de toi, ta présence. Tu es là partout. Je peux pas aller dans la profondeur de la mer, ni dans la hauteur du ciel. Nulle part. Je ne peux pas aller en Égypte, je ne peux pas aller à Canaan sans toi. Nulle part. Et donc, dans le deuxième verset, quand on voit que le monde de Dieu, la montagne de Dieu, parce que Dieu l'a rencontré, Moïse là, ça devient la Terre Sainte. Et c'est pourquoi Dieu veut marquer que tu ne peux pas entrer dans la Terre Sainte n'importe comment. Et c'est vrai. On peut, aujourd'hui, en Inde, parfois, les gens, dans beaucoup d'églises, hein, les gens, ils enlèvent les chaussures pour entrer. Dans mon église, c'était comme ça. Je ne sais pas si c'est bien ou si ce n'est pas bien. Je faisais aussi quand j'étais là-bas, par respect. Mais on peut enlever les chaussures de nos pieds, mais les chaussures de notre cœur, mais on ne peut pas enlever. Parfois, c'est sale, hein. Ça balade partout, mais on peut entrer avec les chaussures. Et donc, je peux enlever mes chaussures quand j'entre le temple, mais partout quand je balade, dans les endroits où je ne devrais pas aller, Dieu n'est pas avec moi. C'est « Soyez saints, car je suis saint. » Ça, c'est le commandement de Dieu. Nous devrions être saints comme lui, il est saint. Donc, voilà, il y a encore certainement beaucoup, beaucoup de choses à retirer de ce passage, mais on va continuer avec la grâce de Dieu, Dieu voulant, la prochaine fois. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voyons que combien tu es un Dieu merveilleux, un Dieu tout-puissant. Seigneur, un Dieu qui peut consumer, un Dieu qui est la forme de feu, qui peut tout brûler, qui peut tout détruire. Mais pourtant, Seigneur, par ta grâce, tu descends dans l'endroit où nous sommes. Seigneur, tu es un Dieu tout-puissant, mais plein de grâce, et lent à la colère, et riche en bonté. Seigneur, aide-nous à voir comme Moïse, Seigneur, les merveilles qui est dans ta présence. Seigneur, pour te rencontrer, pour t'approcher avec la sainteté, pour t'approcher avec une révérence. Seigneur, de ne pas penser que tu es un Dieu limité, un endroit géographique. Seigneur, tu es un Dieu qui est vivant en nous, dans nos cœurs. Seigneur, tout t'appartient. Notre corps, notre cœur, notre pensée, notre esprit. Seigneur, tout t'appartient. Seigneur, garde-nous plus près de toi, qu'aucun d'entre nous peut être égaré, éloigné de ta présence. Seigneur, conduis-nous. Seigneur, tu as dit que j'ai entendu le cri de mon peuple et j'ai descendu pour les sauver. Seigneur, oui, tu as entendu le cri de l'humanité, le cri de l'homme qui souffrait avec le péché. Seigneur, oui, tu as descendu un jour sur la croix pour te donner, pour donner ta vie sur la croix. Et c'est par ce sacrifice nous sommes là ici. Seigneur, sans ton sacrifice, Seigneur, nous ne pourrons pas t'approcher. Merci parce que nous avons Dieu qui est plus près de nous, plus proche de nous. Seigneur, de son trône de grâce, nous pouvons approcher de tout moment. Seigneur, aide-nous à reconnaître ce privilège que nous avons. Seigneur, et être digne de cet appel. Nous te louons, Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Seigneur, et aide-nous à être consacrés comme ton serviteur Moïse. Seigneur, pour la rédemption de beaucoup de personnes. En ton nom, nous prions et pour ta seule gloire. Amen.